Je suis venu te dire que tu peux changer.
D'entendre Hubert Lenoir et la pièce Fille de personne.
Actualité culturelle, je vais vous lire la chronique d'Hugo Dumas, Descendre les envolées d'une octave. C'est le titre de sa chronique. Quand Lara Fabian a déclaré hier au gagnant de Mix 4 de la chaîne VRAC, Reggie, 21 ans, qu'elle avait autant à apprendre de lui qu'elle pouvait lui en enseigner, j'ai longuement soupiré devant ma télé. Sérieux? Une interprète avec autant de métiers, de talents et d'albums vendus que Lara Fabian qui prononce ses paroles beaucoup trop intenses pour la qualité de la prestation du jeune homme, c'est refusé. Bien sûr, ces grandes envolées lyriques font partie du jeu de séduction avec les concurrents, que la chanteuse belgo-canadienne a remporté d'ailleurs. Bravo Lara! Mais cette surenchère de superlatifs et de compliments devient répétitive et lassante. On n'y croit plus du tout, même si Lara, elle, y croit encore. On se dit bien oui, les coachs essaient encore de nous vendre la prochaine Maria Callas, alors que l'on sait très bien que cette personne ne possède pas du tout les qualités artistiques qui lui ont été attribuées. Il ne faut pas prendre les téléspectateurs pour des nonos, ils ont des oreilles eux aussi. Au champion du Mix 4, Lara Fabian a aussi dit que sa voix contenait plus de notes qu'un piano Bösendorfer. C'est gros comme affirmation, ça. Un piano dit standard aligne 88 touches, tandis qu'un modèle impérial du fabricant Bösendorfer en a 97. Tout au long de la soirée d'hier, nous avons eu droit, selon la coach Fabian, à une voix holistique qui va jusqu'au ciel, à une voix rayon laser, à une voix qui a la faculté de transmettre la lumière et même à un prisme à travers lequel passent toutes les lumières de sa dimension. Excessif peut-être? En tout cas, pas toujours clair. J'aime bien la combativité de Lara Fabian ainsi que son vocabulaire précis, mais elle doit descendre son enthousiasme poétique d'une octave. question de crédibilité. De son côté, Alex Nevsky abuse du mot « man ». C'est quasiment un tic de langage. « Man, tu devrais venir avec moi. Merci, man. Bravo, man. » Garou reste cool et relax, sans promettre mer et monde aux candidats sur la scène. Voilà pourquoi je l'apprécie. Même si sa réplique paraissait écrite à l'avance, Éric Lapointe en a lancé une très bonne. « Si on pouvait voler une voix, t'aurais besoin de barrer tes portes et de mettre un bon système d'alarme parce que j'irais faire un tour. Sacré Éric, on l'aime. » Parmi les recrues qui ont été épatantes hier, l'ex-chanteur du duo pop Marabout, Jesse Proto, 32 ans, a fait bonne impression avec sa relecture d'Unsteady de Ex-Ambassadors. Le couple d'Edra Shoah et Ben Cherry a été charmant. Et quelle belle reprise acoustique d'Electric Feel du groupe MGMT ou MGMT. Alex Nevsky a eu droit à 2 étoiles pour le prix d'une. Jordan Labrie, 24 ans, alias le prisme à travers lequel passent toutes les couleurs de sa dimension, s'est attaqué à un classique de Joni Mitchell, Both Sides Now, et a été étonnante. Un autre qui a bien tiré son épingle du jeu, Antoine Lachance, 31 ans de Montréal, un ancien de la formation On a créé un monstre. C'est lui qui a refait Fou n'importe où de Daniel Bélanger. L'avant-dernière participante, Kelly Badeau, 32 ans de Winnipeg, a séduit les 4 entraîneurs avec son Fallen d'Alicia Keys. Entre vous et moi, on a fait beaucoup de cas du premier rappeur de La Voix pour adultes, Mario Cyr, 20 ans de Laval. Il n'a pas été explosif, comme l'a dit Éric Lapointe. Rien pour écrire à sa mère, en fait. À La Voix junior, la petite bombe, Sidney Lallier, 11 ans, était bien meilleure. Un tandem au Gala Artistes? Une grosse rumeur court actuellement concernant l'animation du prochain Gala Artistes me rapporte des espions bien informés. TVA en confierait l'animation à Marie-Pierre Morin et à Jean-Philippe Dion. Le tandem succéderait ainsi à Guy Jodoin qui a piloté les 2 dernières éditions de cette populaire fête de la télé. Ce changement de garde tomberait sous le sens. D'abord, TVA insufflerait un vent de jeunesse à sa cérémonie qui a pris un petit coup de vieux, soyons honnêtes. Aussi, la chaîne de Québécois renouvellerait sa confiance en 2 têtes d'affiche. Ayant été à la barre de nouveautés qui ont bien tiré leur épingle du jeu cette saison, soit Face au mur et La vraie nature. L'an dernier, Marie-Pierre Morin et Jean-Philippe Dion, accompagnés d'Anouk Meunier, avaient chauffé le tapis rouge du Gala Artistes déroulé devant le théâtre Denise Pelletier. Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve a obtenu 2 prix, meilleurs effets spéciaux et meilleure direction photo à la 71e édition des British Academy of Film and Television Arts Awards, le BAFTA, qui avait lieu hier soir à Londres. L'œuvre de Denis Villeneuve était nommée dans 8 catégories. 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri de Martin McDonagh, est sorti gagnant de la soirée avec 5 prix. Meilleur film britannique, meilleur scénario original, meilleure actrice, Frances McDormand, et meilleur acteur de soutien, Sam Rockwell. Guillermo del Toro a remporté le prix du meilleur réalisateur pour The Shape of Water, alors que Gary Oldman a été sacré meilleur acteur pour son incarnation de Churchill dans Darkest Hour. Triste nouvelle, le célèbre violoniste français de jazz Didier Lockwood est décédé dimanche à Paris d'une crise cardiaque à l'âge de 62 ans, a annoncé son agent à l'agence France-Presse. Son épouse, ses 3 filles, sa famille, son agent, ses collaborateurs et sa maison de disques ont la douleur de faire part de la disparition brutale de Didier Lockwood, indique le communiqué transmis par son agent. Il avait participé à un concert samedi soir au bal Blomet, une salle de jazz parisienne. Didier Lockwood était marié à la soprano Patricia Petitbon. Considéré comme son fils spirituel par l'ancien accompagnateur de Django Reinhardt, Stéphane Grappelli, Didier Lockwood était un grand représentant du jazz français à l'international à travers une carrière rythmée par près de 4500 concerts et plus de 35 enregistrements. Critique du disque « À ta merci » de Fishback, 4 étoiles accordée par Émilie Côté. Un don pour les tubes intelligents. Sensation des dernières francopholies de Montréal, la chanteuse française Fishback est une digne héritière du meilleur de la pop des années 80 en France. Pensez à Catherine Ringer d'Erita Mitsouko, à Mylène Farmer, à la chanson « Voyage, voyage » de Désirless ou même parfois à Indochine. Après un EP, la jeune femme, dont le prénom est Laura, lance un premier album officiel généreux de 14 chansons, « À ta merci ». L'interprétation est intense, parfois trop théâtrale, mais on finit par y succomber. Voix un peu à la garçonne, mélodie ambitieuse, instrumentation cold wave, même synth funk ou encore électro-western sur la chanson « Feu ». Cela donne lieu à des bijoux pop au refrain tout puissant, mais aussi à des pièces plus contemplatives comme « Un beau langage » et à une ballade minimaliste « À ta merci ». Fishback dit qu'elle aime être à la limite du bon et du mauvais goût. Disons qu'elle frôle parfois le kitsch et c'est exquis sur sa chanson destinée aux pistes de danse « Le château ». Fishback sait aussi faire réfléchir. Avec sa plume forte et très évocatrice, elle ose parler d'attentats et de l'invisible désintégration de l'univers. Elle chante même en arabe sur la pièce finale « Ajmal Loga », un beau langage. Impressionnante et douée, Fishback sera en spectacle à l'Astral le 10 mars. Et Alain Brunet, lui, revient sur l'album, le nouvel album de Galaxy, Super Lynx Deluxe, auquel il accorde 3,5 étoiles. Typhon de distorsion, guitare et clavier fondus dans le maelstrom, détonation de percus, voix spectrale mixée tout au fond, au voltage généralisé. Garage rock, southern rock, blues, paroxystique, hardcore, psychédélisme carburant pour grosses cylindriques pilotes de redoutables carnassiers. Depuis une quinzaine d'années, les cycles de Galaxy conduisent Olivier Langevin, Pierre Fortin et Pierre Girard à co-réaliser ce rituel plus ou moins trisannuel, défoulement suprême, chaos jubilatoire exécuté par ces super lynx de luxe, personnel plutôt stable au fil du temps. Olivier Langevin aux guitares, Fred Fortin basse, Pierre Fortin batterie, Karine Pion, voix et percussion, Jonathan Bigra, percussion, François Lafontaine, clavier. Redite, forcément, ce voyage de chasse d'un autre type comporte sa part de redondance. Le châssis et l'artillerie de Galaxy restent les mêmes a priori. Mais on en découvre de nouveaux éléments décoratifs à chaque cycle qui s'amorce, dans le traitement des sons échantillonnés et triés sur le volet, dans la relation entre guitare et clavier, dans le mix des voix, dans les percussions tribales et plus encore. Oreilles de lynx, encore sympa, tout compte fait.
De retour à nos idéaux, je veux marcher sans bagage. Montre-moi à marcher sur l'eau. Je ne veux plus être sage. De retour à mes idéaux, il me faudra du courage. après un très long voyage, je les ai vus flotter sur l'eau et atteindre le rivage. On s'est perdu dans la brume, on s'est livré au combat. Moi je te donnerai. En otage, en oubliant mes idéaux, j'ai bâti ma propre cage. On a perdu bien des plumes, on s'y livrait au combat. Moi je te donnerai la lune, mais elle brille déjà en toi, déjà.
Dumas et la pièce Mes idéaux.
Sujet libre, parlons donc de relâche scolaire. Elle porte pourtant bien son nom, mais avec les années, dans plusieurs familles, cette semaine de relâche a fini par rimer avec activités organisées, stress programmé et dépenses démesurées. Bref, tout sauf détente et repos. Et si on prenait le temps de repenser cette semaine de vacances, retour aux sources en 8 points. C'est un article de Sylvia Galipo dans la presse. La définition. C'est du gros bon sens, mais qui dit relâche dit par définition moins de contraintes, souligne Francine Ferland, ergothérapeute et auteur du développement de l'enfant au quotidien aux éditions du CHU Sainte-Justine. On se met dans une atmosphère de vacances, dit-elle, c'est le principe de base. Bref, pas d'horaire, pas de devoirs, ni de leçons. On peut se coucher plus tard, se lever encore plus tard, passer la journée en pyjama. Objectif, on brise la routine, résume-t-elle, et on se crée des souvenirs au passage. La relâche dans le tourbillon, ça c'est la théorie. Mais en pratique, cette semaine est souvent source d'angoisse chez bien des parents qui sont pris dans un tourbillon à temps plein, fait valoir la psychologue Marie-Ève Brabant. Si à longueur d'année, les enfants vivent avec des agendas de ministres entre l'école, les activités parascolaires et les cours du week-end, bien souvent, à la relâche, les parents ont l'impression de devoir divertir leurs enfants. De leur côté, les enfants le demandent parce qu'ils s'y attendent. D'où le défi de ne presque, écrit entre parenthèses, rien programmer pour se reposer, récupérer et finalement reconnecter en famille, poursuit la psychologue. On pense que ce qui est important, c'est ce qu'on va faire, alors que ce qui est important, c'est d'être. Note France Paradis, ergothérapeute, conférencière et chroniqueuse. L'important n'est donc pas d'organiser mille et une activités, mais bien de passer du temps à être là, à 100%. Et pourquoi pas à jouer au Monopoly un après-midi ou construire une cabane dans un lit. Parce que la seule chose qui nourrit le lien, c'est de faire des choses ensemble. Si vous lisez ces lignes et que vous n'êtes pas en congé à la relâche, sachez qu'il y a tout de même moyen de profiter de ces bienfaits relaxants. Oui, même si vous travaillez et que vos enfants sont inscrits au service de garde ou dans un camp. Comment? « Loucer le cadre », entre guillemets, suggère la conférencière et mère de 3 enfants, France Paradis. Pourquoi ne pas laisser les enfants dormir dans le salon, choisir le menu du souper et se coucher plus tard? Il y a quelque chose qu'il faut qu'on lâche, poursuit-elle. Il faut sortir du cadre qui maintient l'ordre. C'est ça qui fait qu'il y a une relâche. Et c'est fondamental, pas seulement pour la forme, mais surtout pour le fond. On en a besoin parce qu'on ne peut pas maintenir tout le temps notre état de performance. Il faut qu'il y ait un moment où on se lâche. Tous les experts consultés le confirment. Ce que ça prend à la relâche, c'est du temps en famille, sans contrainte d'horaire et non de l'argent. L'important, c'est d'avoir du plaisir en famille. Créer un environnement chaleureux, reprend Francine Ferland. Tant mieux si vous avez les moyens de créer ce bel environnement en voyage dans le sud ou sur une montagne en ski. Mais il n'est pas nécessaire de chercher si loin, ni de payer si cher. Au contraire, construire un fort, faire une bataille de boules de neige, aller à la piscine du quartier, regarder la télé, jouer aux cartes, c'est gratuit. Surtout, vous vous épargnerez ici tout le stress associé à un quelconque investissement. Parce que des fois, c'est stressant de payer cher. Tu te mets une pression. Si tu dépenses 8 000 $ pour aller dans le sud, tu ne veux pas que tout le monde soit malade et que ce soit un échec, signale Odile Archambault, auteure de « Maman a un plan ». Bien sûr, si vos enfants vous demandent pourquoi vous ne faites rien, pourquoi vous ne partez pas en vacances comme tous les amis, vous devez saisir cette occasion pour avoir une conversation familiale. Mais avant d'énumérer ce que vous ne faites pas, pourquoi ne pas plutôt insister sur ce que vous faites? Et si vous économisez pour vos vacances d'été, ça se dit, vous ferez une petite leçon d'économie et de finances personnelles au passage. Et pourquoi pas de bonheur personnel tant qu'à y être? Avec les réseaux sociaux, on est tellement exposé à ce qu'on pense être une journée parfaite. Il faut s'entraîner à voir ce qui fait notre bonheur, rappelle la psychologue Marie-Ève Brabant. Et oui, pour vraiment se relâcher et se reposer, il faut aussi prendre le temps de ne rien faire. Tout simplement, laisser les enfants s'ennuyer, oser la spontanéité, ou au contraire, le farniente. Pourquoi pas carrément passer une journée devant la télé à enfiler des séries en groupe? L'important, c'est d'être capable de cerner ses besoins à soi et à sa famille, souligne la psychologue Marie-Ève Brabant. Et ça, il n'y a que vous qui en êtes capable. Car c'est vous qui vous connaissez le mieux. C'est aussi une pause pour les parents. Ceux qui ont le luxe de pouvoir prendre congé, s'ils peuvent prendre du temps pour eux, pour récupérer, c'est une bonne chose, ajoute-t-elle. Quoi qu'on pense, ce n'est pas parce qu'on fait un gros voyage plein d'activités ou qu'on mange un plus gros gâteau qu'on sera en définitive plus heureux. Le bonheur, ce n'est pas mathématique, signale Lucie Mandeville, psychologue et auteure de plusieurs livres sur le bonheur. Mais c'est éphémère. Morale, faire vivre des petits bonheurs au quotidien fait en sorte que le bonheur dure plus longtemps, conclut-elle. À méditer, loin des réseaux sociaux, entre deux parties de cartes, un casse-tête, et une tasse de chocolat chaud, extra guimauve. Nouvelle dans le Journal de Montréal, Afterlife soulève la colère des salons funéraires. L'entreprise de Québec repique les avis de décès sur son site sans consentement. Afterlife reproduit sans consentement nos avis de décès. Certaines familles sont troublées par cette façon de faire alors que des avis incomplets avec des erreurs sont publiés, déplore la directrice aux finances du groupe funéraire Garneau, Valérie Garneau. Selon cette dernière, Afterlife va plus loin en vendant aux proches des personnes disparues sur son site des chandelles virtuelles, des fleurs virtuelles et des messages de condoléances. Or, si les gens décident d'envoyer des fleurs et des chandelles qui ne se rendent jamais aux familles en deuil, on ne le voit pas et personne ne le sait. L'argent va où? Se demande Mme Garneau. À la Corporation des thanatologues du Québec, on se dit également troublé par le modus operandi d'Afterlife. Nous déplorons le fait que des familles en deuil soient prises par surprise et au dépourvu de voir apparaître des avis de décès de leurs proches sur des sites Internet pour lesquels ils n'ont pas donné leur autorisation et qui s'en servent pour vendre des trucs sans le consentement de personne, indique la directrice générale Annie Saint-Pierre. D'après la corporation, les familles des défunts autorisent les salons funéraires à publier les avis de décès dans des publications précises, mais aucune autorisation n'a été accordée au site Afterlife. Nous devons respecter ce lien de confiance en nous assurant que personne ne s'en sert à des fins commerciales notamment, ajoute Mme Saint-Pierre. La Corporation des thanatologues du Québec dit avoir mis en demeure Afterlife afin de faire cesser cette pratique. Afterlife ne fait d'ailleurs pas que parler d'elle au Québec. Dans plusieurs provinces canadiennes, l'entreprise québécoise soulève également la grogne de familles endeuillées. Le mois dernier, une famille du sud de l'Alberta déplorait qu'Afterlife eût publié sur son site Web l'avis de décès d'un de ses proches sans autorisation. L'avis de décès n'avait pas été rédigé par la famille, comportait de nombreuses erreurs et la photo avait été repiquée sur le compte Facebook de la défunte, indiqué un membre de la famille à la chaîne Global News. À Terre-Neuve, une famille éplorée menace de poursuivre Afterlife pour copie sans autorisation d'un avis de décès dont la propriété intellectuelle appartient à la famille, selon l'avocate Erin Best de St. John's, interrogée par le journal Western Star. Joint par le journal, le PDG d'Afterlife, Pascal Paco-Leclerc, a refusé de commenter le dossier. L'homme d'affaires de Québec, qui a cofondé la chaîne de restaurants Taizone, revendue depuis au groupe MTY, détient plusieurs plateformes numériques sur le web. Il est aussi PDG de la société Air Media, spécialisée en développement web et d'applications mobiles. Merci d'avoir été à l'écoute de Le Quotidien des quotidiens. Merci Maurice Bolduc à la mise en onde et au choix musical. Et je vous invite à rester là, puisque dans un petit moment, si vous nous écoutez en direct, place à l'émission Les Paractualités.